On est incroyablement à l'heure et je suis avec Bruno en direct pour Écriture dessinée. Bonjour Bruno.
Bonjour Antoine. On va parler aujourd'hui de Jean-David Morvan, qui est un scénariste à la bibliographie impressionnante. Depuis 30 ans, il écrit pour un grand nombre de dessinateurs. Ancré dans la science-fiction, Jean-David Morvan explore aujourd'hui tous les genres, tous les nouveaux espaces narratifs. Il a écrit un hommage à Manoukian, deux récits de vie de deux résistantes, notamment Madeleine Riffaut pour Madeleine Résistante et Ginette Kolinka pour Adieu Birkenau. Il a également réalisé l'adaptation littéraire de L'honorable parti de campagne tiré du roman de Thomas Rocca. Nous serons avec Jean-David Morvan vers 14h15 pour rencontrer l'écriture, je vais y arriver, du scénariste auteur de plus de 250 titres. A tout de suite. Écriture dessinée. Bonjour à toutes et à tous. Vous avez entendu, c'est Antoine qui est à la régie, aux manettes. Et la programmation musicale de cette émission a été choisie par Jean-David Morvan. Et nous écouterons successivement Bernard Lavillier. Il y aura à la fin les compagnons de la chanson. Et puis on a un troisième au milieu. Et Yves Montand, ça y est. Vous voyez, hein, des fois, ça, il y a du flou qui s'installe. Alors, je voudrais encadrer justement les livres qui font l'actualité de Jean-David Morvan par des livres qui sont aussi issus d'une matière narrative préexistante et qui fait que scénaristes et dessinateurs vont pouvoir utiliser des éléments qui vont être représenter et concrétiser dans cette mise en image qui va donner une autre forme, une autre œuvre à ce qui était préexistant. Commençons par Les âmes noires de Fred Druard et de Sylvain Ducoudray. C'est un roman graphique qui est inspiré de L'argent du charbon, qui est un documentaire sorti en 2009 de Wang Bing, documentariste chinois qui nous fait découvrir une Chine qui n'est pas du tout celle des clichés. Alors, Yoris Ivans avait déjà œuvré dans les années 40 sur ce principe-là, mais Wang Bing vit les choses de l'intérieur et a ainsi fait découvrir l'économie qu'il y a derrière le charbon. Il y a eu un film qui s'appelait Underground, où on était carrément dans la mine et on découvrait ainsi le quotidien des mineurs. Avec donc Les âmes noires, le récit se construit autour de Yuan, qui est un routier chinois. Il transporte du charbon qu'il charge dans des mines clandestines à ciel ouvert. Et puis il va avaler les kilomètres pour livrer du charbon en espérant à chaque fois tirer les meilleurs prix de sa cargaison. Yuan travaille avec Wei, son fixeur, qui marchande les prix avec les acheteurs potentiels. Mais un jour, Wei décide de supprimer Yuan pour lui voler son camion et ainsi le récupérer. Alors, sur le documentaire de Wang Bing, on n'a pas cette trame qui relève un peu plus du polar, mais par contre, on est vraiment dans cet univers de la mine, donc ce qu'il y a autour, avec une représentation de tous les espaces habités, et c'est vraiment la grande précarité, avec ces travailleurs qui vont récupérer de quoi subsister, et petit à petit essayer de, d'offrir un peu plus que de la subsistance à une famille. Yuan a une compagne, une petite fille, et le paysage, les perspectives sont assez terribles. C'est traduit par à la fois le dessin et la mise en couleur. On est dans un espace qui ne ressemble à rien à ces quelques magnifiques vues de la Chine. Mais là, on est contraire vraiment dans un paysage minier où tout semble avalé par la noirceur du charbon. C'est pas réjouissant, ça c'est net, c'est pas le but. L'idée, c'est vraiment d'être dans une mise en fiction du réel, mais avec ce rapport à la vraisemblance que va apporter le dessin. On est vraiment dans ce quotidien d'ouvriers à peine reconnus de la Chine, et c'était une nécessité, en tout cas, d'être dans cette atmosphère du documentaire, mais être aussi dans cette cohérence d'ensemble du récit pour que on soit dans cette réalité qui nous est, disons-le, complètement inconnue. Il y a dans l'écriture de Sylvain Ducoudray une volonté de ne pas être dans le rebondissement artificiel de certaines fictions, mais effectivement de suivre au plus près, à travers le récit de Yuan, eh bien d'être au plus près du quotidien de ses ouvriers. Le dessin de Fred Druard est un dessin au trait avec une certaine souplesse. Il y a un travail sur les expressions des visages qui est beaucoup dans la précision, dans un attachement au regard, une recherche de nuances à chaque fois dans les visages de ces camionneurs et revendeurs de charbon. Et puis il y a ce travail de découpage, de mise en scène qui utilise souvent le trois bandes et qui permet donc d'avoir un nombre de cases relativement peu important, mais qui va toujours remettre le récit dans ce contexte très lourd de ces paysages qui sont complètement plombés par la poussière du charbon et par cet environnement minier. Si vous souhaitiez avoir un récit réjouissant, c'est peut-être pas là vers ça qu'il faut que vous vous dirigez, mais par contre, si vous voulez voir comment la bande dessinée est capable de porter cette réalité avec cette intensité, ça vaut le détour. Les âmes noires de Fred Druard et de Sylvain Ducoudray, inspirés donc de l'argent du charbon. Le documentaire de Wang Bing est publié par les éditions Dupuis. Les 128 pages de ce récit sont au prix de 22 euros. Le livre a été imprimé en Belgique. Changeons de matière narrative préexistante. Avec Yves Klein Immersion, eh bien, la matière de départ, c'est la vie et l'œuvre de Yves Klein, qui est donc un artiste contemporain qui a œuvré principalement de 1954 à 1962. Alors, il y a de quoi faire avec Yves Klein, mais c'est toujours la difficulté de certaines biographies, c'est que souvent vous avez un cahier biographique complémentaire qui vous donne un certain nombre d'informations, et ce Yves Klein Immersion ne manque pas à cette tradition pas très heureuse. Et donc lorsqu'on lit le cahier en fin de livre, on retrouve pratiquement tous les éléments qui sont détaillés dans cette biographie, qui est quand même d'ampleur, elle fait 144 pages. Les deux auteurs, alors il y a Wagner William pour la partie mise en image et Julian Vologe pour la partie scénario. Julian Vologe avait déjà réalisé deux biographies, donc il y avait celle de Bobby Fischer, le célèbre joueur d'échecs, qui n'était pas très convaincante parce qu'il y avait un certain nombre d'éléments et d'événements qui étaient peu traités dans la biographie et qui ne permettaient pas vraiment de prendre toute la dimension de ce joueur exceptionnel. Et puis il y avait celle aussi de Frank Masrel, qui est donc un des papes du roman graphique, celui qui a généré un très grand nombre de successeurs, qui a fait des romans sociaux à partir d'une image par page. Et nous sommes à la fin du 19e siècle et cette biographie n'était pas aussi très convaincante. Alors, Yves Klein Immersion va principalement tenir par la mise en image de Wagner William, puisque le dessinateur va vraiment chercher à mettre en image les audaces d'Yves Klein, et elles ont été nombreuses, et elles ont marqué définitivement l'art contemporain. Et dans sa mise en image, Wagner William cherche à la fois à camper le personnage d'Yves Klein pour qu'il y ait une complicité qui s'établisse avec le lecteur, et que ces innovations, il puisse les mettre en scène. Alors, on reprend les moments forts de la vie d'Yves Klein, cet enfant fils de peintre, l'ambiance familiale, le judo. Yves Klein a été passionné par le judo, il a fait des voyages au Japon pour pouvoir perfectionner son judo. Il est revenu quatrième dan, qui était le plus haut niveau européen. Il a été enseignant de judo jusqu'en 1959. Donc, traduire... Eh bien, Yves Klein pendant ces moments sur le tatami. Et puis, il y a bien sûr les monochromes, les premiers monochromes qui vont être de différentes couleurs et déception pour Yves Klein qui s'aperçoit que le public considère l'ensemble et pas du tout chaque monochrome pour ce qu'il est. Et il va donc se recentrer sur le bleu et créer l'International Klein Blue. Mon anglais est pas un peu approximatif, mais en tout cas, l'IKB est une marque déposée qui a été l'œuvre d'un travail de longue haleine avec les chimistes de Ron Poulenc pour arriver à une recette qui définit le bleu Klein. Alors, cette biographie va reprendre donc les éléments donnés par le texte en postface et puis va mettre en image avec souvent le geste dans l'intensité du mouvement et qui va donner des couleurs particulières, de grandes images, des façons de mettre en scène les quelques éléments comme les happenings ou les pinceaux vivants d'Yves Klein où des femmes étaient enduites de peinture et devaient colorer des surfaces blanches. Mais il reste un peu de doute, d'insatisfaction, de frustration à la fin de la lecture parce que on ne reconnecte pas l'œuvre d'Yves Klein avec ce qui se passe autour, avec le contexte artistique de l'époque. Et Dieu sait si dans les années 50-60, il foisonnait. On a des mentions de rencontres avec quelques artistes contemporains célèbre, Armand par exemple, qu'il a rencontré au tout début, et puis d'autres qu'il va croiser, mais comme Rezzani, qui est donc un des grands critiques de l'époque, mais on ne sait pas plus. Par exemple, par rapport au bleu Klein, quel est l'intérêt de faire un tel bleu, d'avoir cette marque déposée? Quelle est la recherche même? En quoi ce bleu est-il vraiment caractéristique? On a des éléments de réponse, mais par contre, ça aurait pu être complété, par exemple, par ce qu'ont mis en place des personnes qui rénovent les œuvres d'art et qui ont cherché à pouvoir reproduire ce bleu clin. Donc il y a cette insatisfaction qui reste parce que un photomontage comme le saut dans le vide de Yves Klein, qui est devenu extrêmement célèbre, où vous voyez vraiment l'artiste qui plonge dans le vide, qui dit « voilà, moi je suis un artiste de l'espace, donc j'y vais, je plonge ». Eh bien, c'est pareil, la connexion avec l'œuvre elle-même est trop succincte. Et l'importance que cette photo a eue en 1960 n'est pas suffisamment intense pour qu'on soit vraiment dans cette biographie et immergé dans ce bleu clin. En comparaison, il y a eu une immersion, une exposition immersive qui avait été créée par l'atelier des Lumières, qui s'appelait l'Infini Bleu, et qui était justement sur cette couleur d'Yves Klein. Et à ce moment-là, le spectateur était complètement plongé dans un espace avec une mise en lumière qui reprenait le bleu, mais qui reprenait aussi les différentes œuvres d'Yves Klein. Il y a eu notamment ses premiers monochromes qui ont été une étape également importante. Yves Klein, immersion de Wagner William pour la partie dessin, de Juliane Vologe pour la partie scénario. C'est publié par Marabule, c'est traduit par Laure Picard-Philippon. Les 144 pages de ce titre, de cette biographie dessinée, est au prix de 30 euros. Musique.
Mon dragon, mon lance-flamme, mon tueur, mon bel assassin, jolie brute pour ces dames, mon amour, mon trancheur de sein, mon pointeur, mon incendiaire, en auras-tu assez brûlé? Des hommes torches et violés, des jeunes filles impubères. Broyeur de mort, lanceur de feu, rôtisseur de petits villages, mon bel envoyé du bon Dieu, mon archange, mon enfant sage, bardé de cuir, casqué de fer, fusilleur, honneur de la race, que rien ne repousse où tu passes, mon soldat, mon fils de l'enfer. Tes bêtes mécaniques, écraser ceux qui sont chez eux, va de l'équateur au tropique, arracher le bonheur des yeux. Va mon fils, va tu civilises, et puis meurs comme un épinal, sur une terre jaune et grise, où nul ne te voulait du mal. Broyeur de mort, lanceur de feu, rôtisseur de petits villages, mon bel envoyé du bon Dieu, mon archange, mon enfant sage, bardé de cuir, casqué de fer, fusilleur, honneur de la race, que rien ne repousse où tu passes, mon soldat, mon fils de l'enfer. sur de morts lanceurs de feu, rôtisseurs de petits villages, mon bel envoyé du bon Dieu, mon archange, mon enfant sage, bardé de cuir, casqué de fer, fusilleur, honneur de la race, que rien ne repousse ou tu passes, mon soldat, mon fils de l'enfer.
L'œuvre de Jean-David Morvan s'ancre dans la science-fiction. Des séries comme Nomade ou Sillage ont imposé, révélé des mondes mis en image respectivement par Sylvain Savoya et Philippe Buchet. À cette création d'univers imaginaire, le scénariste écrit des biographies, comme celle de Tueur en série pour la série Stéphane Bourgoin présente les serial killers, de photographe de presse avec la série Magnum Photo. Jean-David Morvan adapte des œuvres littéraires comme Proie et prédateur d'après Liu Cixin et le tout récent L'honorable parti de campagne d'après Thomas Rocca. Jean-David Morvan déploie son écriture avec des récits où une matière narrative est déjà présente. Son actualité est marquée par l'hommage au groupe Manoukian avec les fusillés de l'affiche rouge, ainsi que deux témoignages récits de vie avec Ginek Kolinka dans Adieu Birkenau et le triptyque Madeleine résistante, écrit à partir des témoignages de Madeleine Riffaut, une collaboration qui est devenue une amitié. Cette matière narrative préexistante souligne à quel point la bande dessinée, art de la représentation, fait exister moments de l'histoire et ses témoins, espace littéraire qui trouve une autre forme avec l'image et la part de description qu'elle porte. Jean-David Morvan, pour les fusillés de la fiche rouge, a donné la parole à Méliné Manoukian. Il accompagne Geneviève Kolinka à Birkenau. Il recueille la mémoire de Madeleine Riffaut et bouleverse ses histoires sur la résistance. Nous sommes avec Jean-David Morvan pour qu'il nous mène vers ses territoires d'écriture. Bonjour Jean-David Morvan.
Bonjour.
Alors, avant d'être sur ces différents territoires d'écriture, j'aimerais que vous nous parliez de vos collaborations avec les dessinateurs, parce qu'ils sont nombreux, ceux avec qui vous avez collaboré. Alors, comment se passe cette collaboration ?
Il n'y a pas de règles en bande dessinée, en fait. C'est ça qui est bien aussi, c'est qu'on se rencontre... on se voit dans des festivals. Moi, j'ai commencé vraiment avec des amis avec qui j'étais à l'école, parce qu'on a commencé assez jeune. On a décidé d'aller ensemble à Saint-Luc, en Belgique, faire nos études, alors qu'on travaillait à Reims. On travaillait dans des fanzines. Donc ça, c'était avec Sylvain Savoya, par exemple, que vous avez cité tout à l'heure. Et puis après, là-bas, j'ai rencontré des copains, comme David Évrard, avec qui je fais Irena, et puis une BD sur Simone Lagrange en ce moment. Donc, et puis après, j'ai rencontré des gens et finalement, mon plaisir, ça a été de raconter mes histoires, la faire raconter, puisque en BD, on est obligé d'être deux. Scénariste, c'est pas comme écrivain. Scénariste, ça implique de travailler avec quelqu'un, en l'occurrence un dessinateur ou une dessinatrice, évidemment, pour moi, c'est la même chose. Et un de mes plaisirs, ça a été d'aller aux quatre coins du monde, trouver des dessinatrices et des dessinateurs pour pouvoir... trouver le bon ton pour raconter mes histoires. Quand j'ai raconté des histoires sur la Chine, j'aimais bien travailler avec des dessinateurs chinois parce qu'ils avaient le cursus historique que moi j'avais pas sur la Chine, idem avec le Japon, etc. Donc ça m'a toujours intéressé de partir à la recherche de dessinateurs. Alors ça peut être aussi des éditeurs qui nous proposent des dessinatrices et dessinateurs, mais j'avoue que c'est plus rare pour moi. J'ai l'impression que ça fait partie de mon métier de scénariste, de trouver... moi-même, la personne qui me semble juste pour raconter telle ou telle histoire. Voilà.
Est-ce qu'il y a besoin d'une alchimie particulière pour que la collaboration devienne concrète ? Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas marché ?
Oui, ça peut arriver. Après, c'est complexe. Moi, j'ai travaillé avec des gens que j'avais jamais rencontrés, même que j'avais rencontrés sur Internet et que j'ai pas vu, donc j'ai pas vraiment connu le caractère, et je sais pas s'il y avait une alchimie, en tout cas d'amitié, on va le dire comme ça, mais il y avait une alchimie dans le travail, ça c'est sûr. Donc Donc l'alchimie, elle est obligée d'être là. C'est-à-dire, pour moi, un dessinateur, il va, ou une dessinatrice, moi, je vais arrêter de dire dessinatrice ou dessinateur, on va dire en globalité, c'est quelqu'un qui va rendre mieux le travail que je lui ai donné. C'est-à-dire que je vais donner un scénario, j'espère qu'il est bien écrit, que ça fonctionne, qu'il y a des intentions. Et lui, il doit les... Pour moi, il doit les rendre encore plus fortes, les plus concrètes par son passage sur mon scénario, au niveau sur toute la narration, je veux dire, du storyboard. Et donc, c'est aussi pour ça que moi, je n'ai pas dessiné, même si j'ai fait des études à Saint-Luc pour devenir auteur de BD, donc a priori dessinateur. Et je me suis rendu compte que pour raconter bien mes histoires, il y avait des gens meilleurs que moi à la narration graphique. Et c'est pour ça que j'ai travaillé avec plein de dessinateurs différents et que je n'ai pas dessiné moi-même. Mais donc le but, c'est vraiment pour moi de qui rendent une copie encore meilleure que ce que moi j'ai écrit par leur travail narratif et graphique. Donc cette alchimie-là, elle doit exister. Le reste, c'est moins important, on va dire.
Est-ce que vous visualisez les pages que vous souhaitez, que vous présentez aux dessinateurs? Quels sont les documents que vous leur communiquez pour cette collaboration?
Moi, j'envoie une espèce de tableau qui est toujours le même, où je décris chaque case, le nombre de cases par page, chaque case, chaque dialogue, chaque action, tout ce qu'il y a à dessiner, en sachant qu'évidemment, le dessinateur peut rajouter une case, en enlever une, ça me pose aucun problème. Mais je donne le ton global, j'écris tous les dialogues. En général, je les réécris plusieurs fois avant la fin de l'album. Mon premier jet n'est que mon premier jet, j'envoie déjà le travail au storyboard, et après je reprendrai les dialogues. Et il se trouve que comme j'ai été dessinateur, j'ai en tout cas dessinateur non professionnel, mais j'ai en tête, je sais exactement, moi je vois la page quand je l'écris, c'est-à-dire c'est très visuel, je vois la page, mais je me refuse à la dessiner en storyboard. Mon plaisir, c'est vraiment de voir le dessinateur faire son travail sur la page que je lui envoie. Et moi, j'ai une vision, mais ce qui m'intéresse, c'est que lui, il en ait une autre. Sinon, autant que je dessine moi-même. Et à chaque fois, mon plaisir, il est là. Il est de voir arriver les storyboards et que ce soit toujours différent selon les auteurs et qu'on puisse en discuter, oui, évidemment.
Alors, le dessin a cette très, très grande puissance, Jean-David Morvan, qui est d'être très personnel. C'est vraiment... il porte la narration, une partie de la narration du récit. Comment vous vous adaptez, comment vous personnalisez vos scénarios pour être au plus près du dessinateur? Comment ça se passe?
Pour moi, le dessin, c'est l'art qui me touche le plus. C'est l'art dans lequel j'ai l'impression de ressentir le plus ce que l'auteur a voulu y mettre au-delà même du dessin. C'est-à-dire, je ressens les gens... à travers le dessin, les intentions, les volumes, moi je suis toujours très touché par le dessin. Bien plus que par la musique, par exemple. C'est plus fort pour moi. Et après, quand j'écris, j'ai dit que tout à l'heure que j'écrivais toujours dans le même tableau, et c'est vrai. Mais en revanche, j'écris aussi différemment selon les dessinateurs. C'est-à-dire que, en fait, un dessinateur, si je sais par exemple qu'il a une propension à très bien dessiner les décors, mais un peu moins les émotions des personnages, par exemple, je vais plus mettre de dialogue ou de texte off, hein, de texte narratif pour expliquer une émotion. À quelqu'un qui est très fort à ça, bah, j'aurais pas besoin de lui écrire parce que je sais que ça va passer par le dessin. Et c'est pour ça que j'aime bien travailler sur le storyboard et qu'on travaille sur l'album jusqu'au bout. C'est-à-dire ça, jusqu'au bout, ça veut dire une minute avant de l'envoyer à l'impression. Parce que y a toujours des petites choses à parfaire et toujours des choses qu'on peut enlever ou rajouter pour que les intentions soient plus claires pour les lecteurs. Et c'est ça qui me fascine finalement dans le travail de la bande dessinée, c'est cette possibilité qu'on a de travailler sur le livre du début à la fin. Ça, je trouve ça assez génial et ça n'existe pas tellement dans les autres métiers du scénario, je vais dire, où par exemple au cinéma, on livre un scénario, après c'est le réalisateur qui le fait. Mais là, on est vraiment au travail tous sur le même livre, et je dis tous parce que c'est pas toujours à deux. Des fois, c'est à trois, à quatre, à cinq, à six qu'on fait des livres comme le Manouchian, par exemple. Et donc, c'est vraiment ma partie préférée du travail, c'est de polir le livre finalement jusqu'à ce qu'il parte à l'impression.
Jean-David Morvan, vous poursuivons sur Manouchian. Donc là, on est quand même sur un récit historique. C'est aussi un hommage.
Oui,
et comment vous l'avez abordé? Parce que, par exemple, on évoque un épisode beaucoup plus ancien, notamment pour les Kurdes. Et donc, pourquoi ce choix et comment s'écrit vraiment un tel hommage? Parce que c'est quand même une certaine responsabilité, on s'en est rendu compte.
Oui, moi je me suis rendu compte que j'étais complètement inconscient de toutes ces responsabilités. En fait, au moment de me lancer dans un projet, j'ai surtout envie de le faire. C'est peut-être le moment d'évoquer ce qu'on me dit, le devoir de mémoire. J'ai pas, pour ma part, de devoir de mémoire parce que j'aimais pas faire mes devoirs à l'école et j'aime toujours pas. Si je suis obligé de faire quelque chose, ça me dira rien. Donc c'est vraiment une envie de mémoire. J'ai vraiment envie de le faire. Ginette est un peu comme moi. Elle aime pas le devoir de mémoire. Ginette Colinca, pardon. Elle dit désir de mémoire. Voilà. On trouve l'expression un peu surannée. Et donc moi, en tout cas, avec cette envie de mémoire, elle est conjuguée avec une espèce de comment je vais expliquer ça, de manie, de faire les choses les plus justes possibles historiquement, et en même temps de les mélanger avec une narration moderne et un rythme de lecture qui me semble important, de transmettre des émotions. C'est-à-dire j'essaye de faire quelque chose qui s'appelle, ce que j'appelle moi, de la BD de genre appliquée à l'histoire, et surtout pas de la BD Wikipédia. On peut appeler ça roman graphique si on veut, je m'en fous. Pour moi, la BD, le roman graphique, même le manga, les comics américains, c'est tout la même chose. Le webtoon, c'est une manière de raconter des histoires avec des dessins. Et pour moi, le dessin est très important. Je trouve que dans la bande dessinée que je qualifie de BD Wikipédia, souvent on a des photos reprises et puis beaucoup d'explications. Et on a une BD pas vivante, quoi. On a beaucoup en ce moment de gens qui scénarisent de la BD, mais qui pensent pas à scénario, c'est-à-dire qui pensent à ce qu'ils racontent, mais qui n'ont pas une vision narrative de la chose, qui fait que le dessin devient presque un commentaire du texte qu'ils sont en train de dire. Voilà, on a une phrase d'explication, et en dessous, le dessinateur, il doit se dire, qu'est-ce que je vais dessiner? Alors là, je fais une petite blague, là, je vais dessiner un truc. Et en fait, moi, c'est pas comme ça que j'envisage ce travail-là sur la bande dessinée. J'envisage d'utiliser ce que j'ai appris en faisant du genre, c'est-à-dire de la science-fiction, on en parlait au début, enfin vous en parliez au début, de la science-fiction, de l'heroic fantasy, du western, du polar, utiliser tous ces artifices d'une certaine manière que j'ai appris à utiliser narrativement pour raconter un récit historique le plus documenté et le plus juste possible. Voilà, c'est ce que j'essaye de faire, de mélanger vraiment les deux. C'est ce qu'on fait avec Madeleine Résistante, ça c'est sûr, puisque je travaille avec elle en permanence et elle tient comme moi à donner de l'émotion, des frissons, de donner un impact à la vie qu'elle a vécue au-delà de le raconter, de le faire vivre. Voilà. Et je pense que pour moi, j'ai parfois l'impression, comme avec Ginette Colinca, d'avoir fait 30 ans de... un peu moins, mais maintenant ça fait 30 ans, mais j'ai commencé un peu avant avec elle, donc disons 25 ans de bande dessinée, pour être capable de raconter leurs histoires d'une manière qui soit professionnelle, voilà, que tout le reste est un peu... J'ai un peu fait mes classes, et que maintenant je suis au niveau pour raconter des histoires aussi importantes et transmettre leur message et cette espèce de mission qu'elles se sont donnée elles-mêmes. Et moi, je me dois d'être assez fort pour le transmettre au lecteur. Voilà, c'est un peu mon point de vue sur le type de bande dessinée que je fais moi, avec évidemment aucune mégalomanie. C'est-à-dire, je suis aussi tout à fait capable d'entendre et que je peux me tromper. J'ai pas du tout cette espèce de d'autosuffisance qui ferait que je me trompe jamais. Évidemment, je peux me tromper et on fait des choix. Dans Manouchian, j'ai fait des choix et après je suis obligé de les assumer, mais on peut très bien se planter. Bon, le Manouchian a l'air de bien marcher et de plaire aux gens. Je suis pas en train de dire qu'il est pas bien. Mais disons que j'ai toujours cette possibilité en moi de me tromper. Mais je me vois aussi quand j'écris en tant que lecteur. J'ai la chance de lire beaucoup de bandes dessinées. Et donc, j'ai un moi qui écrit et un moi qui surveille et qui fait le lecteur, qui dit est-ce que là, c'est le bon moment pour mettre tel effet, etc. Donc, avoir les deux côtés, ça m'aide quand même, à mon avis, à calibrer les choses. J'espère que j'y arrive. Chaque livre est un challenge, donc c'est aussi toujours important de prendre un risque narratif et de ne pas ronronner en permanence.
Jean-David Morvan, je vous propose qu'on écoute Yves Montand et puis on se retrouve pour parler notamment des trois femmes que vous avez citées. Bon, il y avait Ginette et Madeleine et puis il y a Mélinée qui a la parole dans le Manouchian. À tout de suite.
Exactement, à tout à l'heure.
Fleur au fusil, tambour battant, il va. Il a 20 ans, un cœur d'amant qui bat. Un adjudant pour surveiller ses pas et son barda contre ses flancs qui bat. Quand un soldat s'en va en guerre, il a dans sa musette son bâton de maréchal. Quand un soldat revient de guerre, il a dans sa musette un peu de linge sale. Partir pour mourir un peu à la guerre, c'est un drôle de petit jeu qui ne va guère aux amoureux. Pourtant, c'est presque toujours quand revient l'été qu'il faut s'en aller. Le ciel regarde partir ceux qui vont mourir au pack à danser. Des hommes, il en faut toujours, car la guerre se fout des serments d'amour. Elle n'aime que le son du tambour. Quand un soldat s'en va en guerre, il a des tas de chansons et des fleurs sous ses pas. Quand un soldat revient de guerre, il a simplement eu de la veine et puis voilà. Simplement eu de la veine et puis voilà. Simplement eu de la veine et puis voilà.
Vous êtes sur Radio Escapade dans l'émission Écriture dessinée. Nous sommes en direct avec Jean-David Morvan à l'occasion de différents livres qui font l'actualité. Et on a évoqué notamment tout à l'heure Les Fusillés de la Fiche Rouge sur Missak, Mélanie et le groupe Manouchian. Jean-David Morvan, vous avez donné la parole à Mélinée Manouchian. Pourquoi et est-ce une façon de rappeler l'importance des femmes dans la résistance,
Bien sûr, j'ai l'impression que j'ai fait ça dans mes livres. Je ne l'ai pas spécialement fait exprès, mais j'ai aussi cherché à raconter des histoires qui n'avaient pas été racontées encore. Et il me semble que les femmes dans la résistance, c'est important parce que, comme dit Madeleine, quand la guerre a commencé, quand l'occupation plutôt allemande a commencé, on avait entre 1 500 000 et 2 millions d'hommes prisonniers par les Allemands. Et que donc les premiers à avoir commencé la résistance, c'est forcément les femmes, puisque les hommes, ils n'étaient pas là. Donc c'est assez juste. C'était une résistance quotidienne, une résistance, on va dire, d'anti-propagande nazie. Faut pas oublier que la résistance, c'est pas juste des coups de main et des actions, c'est aussi distribuer des tracts, faire penser aux gens que la guerre n'est pas perdue, qu'on peut encore gagner, que la machine allemande et nazie a l'air tellement puissante qu'on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais, mais qu'on peut y arriver. La preuve, ils sont arrivés, ces gamins, en 1942... parce qu'il y avait quand même beaucoup de gamins, il n'y en avait pas que ça, mais il y en avait pas beaucoup, qu'on rêvait qu'ils allaient gagner la guerre contre les Allemands qui occupaient toute la France, et ça semblait impossible, et tout le monde pensait que c'était impossible, ils sont arrivés quand même. Donc c'est complètement fou, et il fallait avoir cette intuition-là. Et les femmes ont vraiment beaucoup participé à ça, et on a plus raconté l'histoire des hommes. Je me suis dit, tiens, je vais raconter l'histoire des femmes. J'ai commencé par Irena Sendler, ou Sendlerova, qui est une Polonaise qui a sorti et donc sauvé 2500 enfants du ghetto de Varsovie dans des conditions incroyables. Je trouvais que c'était une histoire complètement folle à raconter. Et puis on a enchaîné avec ce dessinateur, David Evrard, avec qui j'ai été à l'école Saint-Luc d'ailleurs, sur Simone Lagrange, qui elle a été témoin du procès Barbie parce qu'il l'a torturée quand elle avait 13 ans et avant de l'envoyer à Birkenau. Donc histoire complètement folle, série en cours, on va dire. Et puis, tout en travaillant sur Irena, j'ai vu Madeleine à la télé dans un documentaire qui s'appelle Résistante, et dans lequel il y a trois résistantes, Marie-Jo Chombardelove, Cécile Roltangui et Madeleine. Et j'ai ressenti ce besoin d'appeler Madeleine en étant frustré de ne pas avoir rencontré Irena qui était morte en 2008. Et je me suis dit, tiens, t'as encore une chance de rencontrer des gens qui ont vécu cette période, donc fonce. J'ai eu Madeleine. Évidemment, elle m'a engueulé au début parce que c'est Madeleine au téléphone pendant le premier coup de fil. Et puis finalement, au deuxième coup de fil, elle m'a dit de venir. Et voilà, ça fait quasi 7 ans et on ne s'est pas vraiment quitté depuis. C'est une nouvelle vie que je vis quasi à mi-temps chez Madeleine à Paris, alors que moi j'habite à Reims. Et donc, voilà, c'était fabuleux et tout le travail qu'on a fait et aussi la réception de l'histoire de Madeleine par le public était est quand même un miracle. C'est génial, ça veut dire que ça intéresse les gens, elle intéresse les gens, ce qui est mon plus grand plaisir et cette période et ce sujet aussi. Et puis pendant que je faisais Madeleine, mon copain Victor Maté, qui travaille sur France Info, m'a proposé de faire une BD avec lui sur Ginette Colinca. Donc on est allé avec elle à Birkenau et on a fait cette bande dessinée. Et c'est vraiment, dans ma vie, une surprise et en même temps quelque chose d'extraordinaire de rencontrer ces femmes-là qui sont vraiment des exemples de courage. Et comme je disais à Ginette il n'y a pas si longtemps, où elle disait « Ah ouais, mais moi j'ai rien fait, j'ai eu de la chance, j'ai survécu, c'est pas un acte de courage. » Mais je dis peut-être qu'à l'époque, c'en était pas un, Ginette, mais aujourd'hui, c'en est un. C'est-à-dire que tout ce que tu fais dans les écoles, que tu sois encore là aujourd'hui et que tu passes ton temps à témoigner, il est là aussi, le courage. Il n'est pas que à l'époque, et c'est en ça que tu es aussi une héroïne, parce que tu as compris l'importance de la chose et tu te bats encore aujourd'hui à 99 piges pour transmettre ce message et le transmettre d'une bonne manière, c'est-à-dire pas plaintive ni rien, mais de transmettre avec ta propre énergie des choses. Mais bon, c'est des, elle comme Madeleine, c'est vraiment des exemples incroyables.
Jean-David Morvan, qu'est-ce que ça change dans l'écriture, cette amitié, par exemple, avec Madeleine Riffaut ?
C'est difficile, je ne sais pas exactement ce que ça change, mais elle, c'est une très grande, et comme Ginette d'ailleurs, Madeleine, c'est vraiment une très grande narratrice, c'est-à-dire elle a écrit des livres, des articles, c'était une reporter de guerre, elle a un talent extraordinaire, donc elle sait raconter les histoires. Et donc, elle m'a appris plein de choses. Que j'utilise, peut-être même des fois inconsciemment. J'étais pas trop mauvais avant, mais j'ai l'impression c'est elle qui me fait encore progresser. Il y a parfois dans les BD, c'était par exemple le cas avec Irena, on a fait une bande dessinée qui, je pense, dépasse la somme des talents respectifs des auteurs qui y ont travaillé, donc David Evrard, Séverine Trefoil, Walter le coloriste, qui est très important aussi. Et que tout ça mis ensemble, on a réussi à faire une BD meilleure que ce qu'on aurait été a priori capable de faire. Et ça veut dire qu'on est transcendé par un sujet. Et maintenant, je cherche d'être transcendé par le sujet. Et c'est sûr que je peux pas me montrer nul face à Madeleine Riffaut. Il faut que je sois bon tout le temps. Il faut que je sois toujours meilleur. Elle est exigeante. Elle veut que je lui relise. Je suis obligé de lui relire parce qu'elle est désormais aveugle. Donc, je relis le scénario, je relis les pages. Enfin bon, je travaille avec elle. En permanence, on change des mots, elle me dit « Oh là, t'es bavard, fais gaffe ». Donc voilà, je travaille là-dessus, elle m'apprend vraiment toujours des choses, et je pense que c'est ça le but de ce métier, c'est d'apprendre tout le temps. C'est le jour où on arrête d'apprendre, on essaye, on se dit « Oh ben, on a trouvé une recette et on la refait on perd nos capacités, donc il faut toujours être au travail et toujours réfléchir à la narration. C'est aussi en ça que c'est important de lire des bandes dessinées de jeunes auteurs, parce qu'en fait, ils nous apprennent des choses. Ils nous font découvrir des choses, ils nous évitent de ronronner. Donc, enfin bon, je ne sais pas si ça se sent, mais je suis passionné par ce métier et évidemment passionné par Madeleine et par Ginette, ça c'est sûr.
Je voudrais, Jean-David Morvan, qu'on évoque l'honorable partie de campagne, qui est une adaptation littéraire, donc une autre forme de présence narrative préalable au récit. Alors, Qu'est-ce qui vous plaît dans l'adaptation littéraire et comment on aborde un roman comme celui de Thomas Rocca qui nous plonge dans le Japon des années 20 ?
Bah pour moi, quand j'ai commencé à faire de l'adaptation, ça fait très longtemps. J'ai même créé une collection chez Delcourt qui s'appelle Ex Libris, il y a longtemps, qui avait ça pour ambition. Pour moi, en tout cas, je me rends compte que j'ai jamais vraiment lu un livre si je ne l'ai pas adapté, c'est-à-dire si je n'ai pas travaillé dessus. Entre le lire et en ressentir quelque chose et travailler, je rentre dedans. C'est-à-dire adapter, je rentre dans le livre, je comprends encore plus ce que moi j'ai ressenti de ce que l'auteur voulait me dire. Et c'est vraiment un travail de fond où je décrypte tout le livre. Il y a peut-être des gens qui sont capables, et je le souhaite, d'avoir tout compris d'un livre juste en le lisant. Moi, j'ai besoin de travailler dessus. D'ailleurs, quand je lis un livre qui me plaît, j'imagine toujours comment je pourrais l'adapter, même si je ne le fais pas, mais c'est toujours comme ça que ça fonctionne dans mon cerveau. Parce qu'on dira que la bande dessinée est mon unité de base de pensée et de réflexion. Je pense, bande dessinée, c'est comme ça que je décrypte le monde. Donc j'ai fait beaucoup de choses, j'ai fait mon roman préféré de Victor Hugo, j'ai eu la chance de pouvoir l'adapter, c'est L'homme qui rit. Enfin, vraiment beaucoup de choses, de la science-fiction, du Jack Vance, voilà, plein de choses que j'adore. Mais pour ce qui est de l'honorable partie de campagne, ce que je trouve très intéressant, c'est que Thomas Roca, je le dis avec l'accent japonais parce que Thomas Roca, ce n'est pas son vrai nom, mais Thomas Roca, ça veut dire en japonais, c'est un jeu de mots qui veut dire à la fois est-ce que c'est ici qu'on descend du train ou est-ce qu'on va coucher ensemble ce soir. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais c'est un jeu de mots sur la langue japonaise. Et donc, c'est un garçon qui était au Japon, qui l'a quitté en 1922, donc juste avant le grand tremblement de terre de Tokyo en 23, et qui raconte finalement ce que moi j'ai vécu en habitant au Japon, c'est-à-dire la différence entre le point de vue français et le point de vue japonais. C'est-à-dire pour moi le Japon, et ça il l'avait très bien ressenti lui avant moi, évidemment puisqu'il y était avant moi, c'est toutes ces choses qui, au Japon, on a l'impression de comprendre les Japonais, et plus on creuse, moins on les comprend. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de vernis qui ressemble entre les Français et entre la culture française et la culture japonaise. Mais si on creuse, en fait, moins on comprend. Moi, plus je connaissais le Japon, moins je comprenais le Japon, ce qui est assez fascinant. C'est-à-dire d'habitude, quand on apprend, on comprend. Et ben là, pour moi, c'était l'inverse. Et je trouve ça génial et j'avais envie de le retranscrire. Et en plus, l'honorable partie de campagne que j'ai eu il y a longtemps, c'est Pierre-Alain Zighetti, un éditeur qui travaillait chez Kodansha, qui a amené finalement les auteurs français comme Skoyten, comme De Crécy, comme Baru à travailler pour le Japon, comme Baudouin, m'a dit « il faut absolument que tu le lises, tu verras, tu comprendras des trucs ». Et effectivement, j'ai compris et j'avais envie de rendre ça. Et c'est un roman qui est à la fois drôle, qui a l'air d'être désuet mais qui l'est pas du tout, qui a l'air d'être drôle mais qui l'est pas vraiment, voire même pas du tout. C'est quelque chose de beaucoup plus profond où on a l'impression de se moquer des Japonais, mais finalement, l'auteur se moque avant tout de lui-même, c'est-à-dire que le personnage occidental n'est pas du tout fréquentable d'une certaine manière et il ne se fait pas de cadeau à lui-même. Et c'est vraiment comment on a l'impression de se comprendre et on ne se comprend pas. Et finalement, ça reste le thème de ma série Sillage que j'ai créée il y a longtemps avec Philippe Bucher sur l'histoire d'une humaine qui vit dans un convoi où il n'y a que des extraterrestres. Et qui essaye de les comprendre à la fois eux et de se comprendre elle-même en essayant de se référer à une race humaine qu'elle ne connaît pas puisqu'elle en est la seule représentante et qu'elle est obligée d'imaginer. Et moi, je travaille, j'ai l'impression vraiment beaucoup là-dessus sur cette espèce d'impression qu'on comprend et qu'en fait, chaque personne a un point de vue différent sur le même événement. Ça me vient beaucoup sans doute de Kundera, en particulier, pas seulement, mais de L'insoutenable légèreté de l'être, où en fait, chaque personnage a un vécu différent sur les mêmes choses. Les personnages vivent la même chose et certains le prennent bien, d'autres mal. Mais cette impression-là, on ne l'a pas tout de suite. Il faut du temps pour que ça fasse le chemin. Et voilà, c'est aussi pour toutes ces raisons-là, je pense que j'ai aimé l'honorable partie de campagne. Et quand j'ai aimé, j'ai envie de l'adapter. C'est comme ça.
Jean-David Morvan, dans cette honorable partie de campagne, les personnages féminins sont très importants. Est-ce que c'est une autre façon de voir que vous avez épousé la cause des femmes, comme dans...
Je ne sais pas si j'ai épousé la cause des femmes, mais j'ai... D'abord, elle me semble aussi intéressante que les hommes. Sans doute plus, à vrai dire, mais bon. Et sans doute parce que je ne suis pas une femme. Et que j'ai toujours eu envie de raconter, moi, ce que je ne suis pas. J'ai pas vraiment fait d'autobiographie. On en a un peu dans Madeleine à la fin, mais c'est plus du storytelling pour raconter... la chose, mais moi, ça m'a toujours intéressé, ce que je suis pas. J'ai toujours été intéressé par les autres êtres humains, pas par moi-même. Et donc, d'essayer de comprendre, par rapport à moi-même, qui est mon seul référent, effectivement, comment sont les autres, en fait. C'est pour ça que j'ai écrit des histoires de serial killers, alors que j'en suis pas un. Cela dit, tous les serial killers disent qu'ils n'en sont pas, hein, vous n'êtes pas obligé de me croire. Mais voilà, j'ai toujours essayé d'aller dans la tête des autres humains pour voir... ce qu'ils ressentaient, ce qu'ils pensaient, comment ils évoluaient, et puis me dire, alors là, je ne parle pas des serial killers, mais qu'on peut très bien penser d'une autre manière que moi et avoir raison quand même. C'est-à-dire que c'est pas ma culture n'est pas la seule. Ma manière de penser n'est pas la seule, par extension. Celle de mon pays n'est pas la seule manière de penser. C'est en ça que je suis anticolonialiste, et sans doute qu'on s'est bien entendu avec Madeleine. Moi, je suis anticolonialiste dans une période où c'est pas grave de l'être. Elle était anticolonialiste dans une période où c'était grave de l'être, parce que elle a risqué sa vie pour l'anticolonialisme. Et c'est ça qui m'intéresse aussi dans le voyage, c'est-à-dire de me rendre compte qu'il y a plein de manières de penser et qu'on n'est pas les seuls à avoir raison, et que c'est intéressant, et que c'est pas parce que je suis né à un endroit que forcément je suis né dans la bonne, dans la seule civilisation qui vaille la peine. Ça rend un peu plus humble, c'est pas mal. Et donc voilà, c'est vraiment beaucoup de raisons, et c'est marrant parce que je les cite là au fur et à mesure, ce que je fais pas forcément tout le temps. Et je me rends compte que c'est vraiment tout ça la base de mes récits depuis toujours, en fait. Et c'est des thématiques qui m'ont toujours suivi. Et c'est assez intéressant, parce que c'est récemment que je me suis rendu compte qu'il y avait un fil directeur dans tout ça. Avant, j'avais l'impression, et les lecteurs avaient l'impression, que je faisais plein de choses différentes. Mais en fait, j'ai toujours raconté la même chose. C'est intéressant.
Jean-David Morvan, votre œuvre de scénariste est très conséquente. Est-ce que vous avez envie d'écrire pour le cinéma, par exemple, comme d'autres scénaristes l'ont fait? Je pense à Wilfried Lupano.
Je vais le faire parce qu'on va adapter Madeleine Résistante, mais ça m'intéresse pas, en fait. J'ai jamais fait de bande dessinée pour faire du cinéma. Je pense pas que la reconnaissance ou d'une bande dessinée et son succès soit dû au fait qu'elle passe au cinéma. Pour moi, la BD est un art en lui-même. Les auteurs de BD qui font de la BD pour faire du cinéma feraient mieux de faire du cinéma. Ça me paraît plus juste. Comme à l'époque, ceux qui faisaient de la BD mais qui étaient frustrés d'être des peintres, ils faisaient de la bande dessinée. Pourquoi pas? Mais moi, je valorise la BD autant que le cinéma. Pour moi, la BD est plus intéressante que le cinéma, en fait, à vrai dire. Et puis après, au niveau du... Enfin, même s'il y a beaucoup de films que j'aime beaucoup et qu'on peut me qualifier de cinéphile si on veut, j'aime beaucoup, mais je pense que la BD n'a rien à envier au cinéma. Voilà. C'est pas un acte de noblesse de transférer une BD au cinéma. D'ailleurs, il y a beaucoup d'adaptations qui sont nulles, qui font des films mauvais. Vaut mieux une bonne BD qu'un mauvais film. Et une bonne BD vaut autant qu'un bon film. Voilà. Mais après, purement du métier, du scénario, j'ai une chance énorme, c'est-à-dire que je fais ce que je veux. Et en scénario, j'ai une idée, je trouve un dessinateur, un éditeur, et on fait une BD. Un an et demi après, on a le récit qu'on voulait raconter. Personne n'est venu interférer, il n'y a pas de producteur qui, parce qu'il va mettre de l'argent dans un projet, pense que ses idées sont judicieuses. L'argent ne rend pas les gens intelligents, ça fait longtemps, ça se saurait, en fait. Donc j'ai pas besoin d'écrire 18 versions dont je ne serais pas sûr à la fin que la première était pas mieux que la 18e. Donc à partir du moment où on est dans ce confort-là de scénario, j'avoue, c'est un confort de pas avoir à me confronter à des coproducteurs ou à des gens comme ça qui vont donner leur avis sur mon récit. Je peux livrer directement aux lecteurs le récit que j'ai envie de leur raconter, sans faire de compromission, et c'est quand même un luxe énorme que j'aurais pas au cinéma. Et c'est pour ça que j'ai jamais vraiment rêvé de faire du cinéma, à vrai dire.
Merci beaucoup, Jean-David Morvan. Je vais rappeler les références de vos livres qui font votre actualité. Alors, on vient d'évoquer L'honorable parti de campagne, d'après le roman de Thomas Rocca, mis en image par Roberto Mélis, c'est publié par les éditions Sarbacane. Et ces 128 pages sont au prix 22 euros. Il y a Missak Méliné et le groupe Manoukian, donc Les Fusillés de la Fiche Rouge, qui a été mis en image par Thomas Tcherkézian, c'est chez Dupuis. Et les 160 pages sont au prix de 25 euros. Il y a Adieu Birkenau.
J'avoue que là, on a travaillé, je vous coupe deux secondes, mais
oui, il n'y a pas de souci.
Beaucoup de dessinateurs, Citron qui a fait le storyboard, Rafa oui. Ortiz qui a fait des dessins. On a vraiment c'est un vrai travail d'équipe, c'est ça qui était intéressant.
C'est vrai que je n'ai pas cité tout le monde.
Non, mais c'est normal, il y en a beaucoup là, vraiment.
Adieu Birkenau de Ricaretta et donc de vous-même, avec aussi Cesc et Victor Matet, donc c'est chez Albin Exactement. Michel. 112 pages pour 22 euros. Et Madeleine Résistante, dont les deux premiers tomes sont sortis, c'est mis en image par Dominique Bertaille, avec, bien sûr, Madeleine Riffaut. C'est chez Dupuis. Et les deux livres, donc de 136 pages, sont entre 23,50 et 35 euros. Et puis vous pourrez transmettre toutes nos amitiés à Madeleine. Et à très bientôt, Jean Dabine.
Je vais aller la voir parce qu'elle a déjà gueulé au téléphone pour que je descende, donc j'y vais tout de suite.
Eh bien, à très bientôt et très bonne continuation.
Merci beaucoup à vous, à très bientôt. Au revoir.
L'ennemi était chez moi, on m'a dit résigne-toi, mais je n'ai pas pu. Et j'ai repris mon arme. Personne ne m'a demandé d'où je viens et où je vais, vous qui le savez. Effacez mon passage. J'ai changé 100 fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. J'ai la France entière. Un vieil homme dans un grenier, pour la nuit nous a cachés, les soldats l'ont pris. Il est mort sans surprise. Hier encore nous étions trois, il ne reste plus que moi. Et je tourne en rond dans la prison des frontières. Le vent passe sur les tombes, la liberté reviendra, on nous oubliera. Nous rentrerons dans l'ombre.
Le meunier hurlant que je souhaitais présenter pour compléter ces livres qui ont une matière narrative préexistante, je vous le présenterai dans la chronique de demain, parce que vraiment, ça vaut la peine. Il y a donc ce samedi, nous sommes le 28, c'est demain, il y aura la dédicace à la librairie Azimut de Jean-Denis Pendanx. Et c'est une très bonne nouvelle, il vient de sortir L'œil du marabout et on aura l'occasion d'en reparler. Merci Antoine pour cette technique et puis on se retrouve la semaine prochaine et bon après-midi sur les ondes de Radio Escapade.
Écriture dessinée.